Billet dernier, j'ai été appelé à prêcher aux obsèques de ma mère et à mon grand étonnement, 6 mois plus tard, aux obsèques de ma belle-mère. Il est peu ordinaire qu'une famille perde les 2 mères en moins de 6 mois. Cela nous est arrivé et je voudrais dire tout au début de ce que je dis ce soir, que je ne présente pas cette étude du point de vue que votre cœur ne se trouble pas devant la mort d'un bien-aimé. Je ne suis pas ici ce soir pour présenter devant vous une plaidoirie pour le bonheur éternel de ma mère ou de ma belle-mère. Donc ce n'est pas à leur égard que je dis mon cœur n'est pas troublé. En plus, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je prêche ce soir dans le sens de vous dire vous vous trouvez devant la mort d'un bien-aimé, vous vous trouvez devant des problèmes quelconques, soit qu'il ait été chrétien, soit qu'il ne l'ait pas été, que votre cœur ne se trouble pas. Je voudrais dire là tout simplement, quoi que soit la condition de votre cœur, vous ne pouvez changer la condition éternelle de quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé et qui est déjà parti pour être avec le Seigneur. Et vous ferez de cette dernière phrase, selon votre cas personnel, ce que vous voulez. Donc, je ne veux pas que mon étude ce soir soit dirigée dans un de ces 2 sens. Ce n'est pas pour prêcher le bonheur éternel de quelqu'un que j'ai aimé, et ce n'est pas non plus pour vous donner la paix dans votre cœur concernant quelqu'un que vous avez aimé et qui est mort. Ce soir, je m'adresse à vous. Et je vous dis que vous n'avez pas le problème de votre mère, de votre père, de vos sœurs, de vos parents, qui sont tous mourants, d'accord, ou qui sont peut-être morts. Vous n'avez pas ce problème, aucun problème. Qu'ils soient morts ou vivants, ils sont entre les mains d'un Dieu tout bon et bénissant, et vous n'y pouvez rien, sinon prêchez l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas déjà accepté. Je ne le dis pas non plus dans le sens que je voudrais ce soir vous dire « Soyez heureux, quoi que ça soit vrai, pour votre mère, votre père ou quelqu'un d'autre qui est déjà mort et qui est mort dans le Seigneur. » Je vous dis que ce n'est pas là votre problème non plus. Votre problème est mon problème. Et le problème de toute personne qui m'écoute, c'est que nous sommes tous des mourants. Et si quelque chose me trouble, c'est que moi, pendant que je suis encore vivant, je suis en face de la mort. Et quelle question devrais-je me poser là-dessus? Et quelle devrait être ma réponse? Je ne vous dirai pas, ce serait inutile et ce serait ridicule. Ne pleurez pas quand vous perdez un bien-aimé. Si Jésus s'est permis de le faire lors de la perte de Lazare, qui suis-je pour vous dire? Vous ne pouvez pas. Mais je vous conseille plus d'une fois de pleurer sur vos propres fautes, sur vos propres faiblesses et sur la crainte que vous ne soyez pas ce que le Seigneur voudrait. Et pourtant, je ne voudrais pas semer la crainte dans votre cœur, que votre cœur ne se trouble pas devant le problème de la mort. Je parle aux chrétiens et je vous le dis au nom du Seigneur. Et je parle également à vous qui ne l'êtes pas encore, je voudrais bien que vous ayez cette paix dans votre cœur. Il m'est très rare, je pense, d'introduire une histoire personnelle dans une étude, dans le sens de faire partie de cette étude, mais pour une seule fois, je fais une exception concernant ma mère, une histoire que je trouve que je vous le dois. Ma mère est morte d'une maladie qui existe dans notre famille et ma mère était mourante visiblement pendant les 10 dernières années de sa vie. Or, il faut que je vous explique une toute petite, une toute petite explication d'une coutume aux États-Unis. Ça provient du temps des premiers pionniers, du fait que ceux qui prêchaient étaient très rares, et quand il y avait des obsèques, ils étaient obligés de venir de loin, et on a toujours continué cette habitude. On donnait toujours quelque argent à celui qui avait prononcé les paroles de réconfort à la famille lors des obsèques. On le donnait toujours. Et on a continué, quoiqu'aujourd'hui le problème ne soit plus le même, on continue aujourd'hui comme marque d'affection et d'appréciation de toujours tendre vers celui qui prêche lors des obsèques une petite enveloppe contenant un petit don personnel pour les besoins personnels de celui qui a prononcé ces mots. Or, il vous fallait cela pour vous dire l'histoire que je vous raconte. Sachant que ma mère était mourante avec une maladie lente qui allait prendre longtemps, en effet ça a pris 10 ans, vous le savez tous, ma mère était une chrétienne fort appréciée dans le pays où je suis né, où j'ai grandi. Et un jour avec elle, ne sachant pas très bien comment le poser, mais étant décidé que j'allais lui demander le privilège, j'ai finalement, tant bien que mal, pu sortir de mes pauvres lèvres une requête que vous comprendrez bien était difficile à former. J'ai dit, « Mam, si tu n'as pas d'objection, je voudrais prêcher le serment lors de tes obsèques. » Elle m'a dit aussitôt, ma mère était une femme de sentiments très vifs et elle pouvait répliquer vite, même pendant cette maladie qui finalement a affecté son esprit. Elle me disait aussitôt, mais très bien, si ça te plaît et tu veux le faire, tu n'as qu'à en parler à ton frère et tu n'as qu'à t'arranger avec lui, moi je veux bien. J'ai dit, ouf, mais un silence. Que je me disais, oh, c'est lourd, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, qu'est-ce qu'elle va me sortir, est-ce qu'elle va me dire, mais comment as-tu osé? Mais très court, et finalement, avec un petit sourire, elle me dit, bien entendu, tu me feras une réduction de prix. Or, je puis vous dire que j'ai pu, quoique difficilement, j'ai pu quand même parler de la mort de ma mère, et je me permets cette histoire pour vous dire, il est possible de mourir d'une telle manière que la mort n'est pas un problème. Et je voudrais que la Bible nous réponde à ce que je viens de vous dire. Je voudrais que la Bible affirme ce que je viens de vous dire. Et ainsi, je vous demande d'ouvrir vos Bibles au 15e chapitre d'un Corinthiens. Et sans vous cacher quoi que ce soit, je vous dis ce soir que je dis essentiellement le même message que j'ai dit lors des obsèques de ma mère, de ma belle-mère, et pour Reba et Epi lors des obsèques de votre fils. Car je ne vois pas comment il est possible pour un chrétien de dire autrement concernant la mort de quelqu'un qui meurt dans le Christ. Tout d'abord, je vous rappelle, pour commencer, qu'il y avait 3 grandes fêtes juives. Et chacune avait son caractère qui lui était propre. Il y avait d'abord la Pâque. La Pâque, c'était dans un sens une cérémonie de mort. Le sang coulait en rivière à Jérusalem avec tous les agneaux qui étaient offerts lors de la Pâque. Mais le Juif avait l'impression que par ces rivières, ces fleuves de sang, je ne sais pas très bien comment, mais mes péchés sont pardonnés. Mais il faut dire que la Pâque était une fête de mort. Les tabernacles étaient une fête de liberté. Tout le monde quittait la maison, tout le monde construisait des tabernacles ou des tentes sur les toits, dans les cours, dans les rues. Et tout le monde, pendant 2 semaines, vivait en liberté absolue, à la belle étoile en quelque sorte. C'était vraiment une fête de réjouissance, rappelant quand même aux enfants d'Israël qu'ils avaient passé 40 ans, ou leur père avait passé 40 ans dans le désert. Et les prémices ou la Pentecôte, c'était ni l'un ni l'autre, c'était une attente. Et là, avec soin et avec amour, quelqu'un qui a été choisi d'avance, préparé dans son champ de blé, des gerbes précieuses, soignées avec amour, forcées à pousser de telle manière que ce serait le plus joli, le plus merveilleux, le plus parfait de tout le blé d'Israël. On le soigne avec un amour incomparable. Et au moment voulu, le prêtre allait dans ce champ et avec une serpe d'or, il coupait les gerbes précieuses, il a porté au temple, et trois fois devant le Seigneur, il l'agitait devant le Seigneur en faisant des prières, pendant que tout Israël chantait la gloire du Seigneur, et cela voulait dire, Seigneur, tu nous as donné cette promesse absolue, visible, merveilleuse, d'une récolte qui viendra plus tard. La Bible dit une seule et unique fois, contient une seule et unique fois, la Pâque, le sens de Pâque chrétienne. Et elle dit, Christ est votre Pâque. Pas une fête, Christ est votre Pâque. C'est 1 Corinthiens 5. Et la Bible dit également avec autant de précision, Christ, il est vos prémices. 1 Corinthiens 15, je vous lis le passage. Maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Voyez le prêtre qui allait couper ce jour cette gerbe de blé, qui l'agitait devant tout Israël dans les acclamations de joie et de reconnaissance envers l'Éternel en disant, la récolte vient. Merci Seigneur. Et voyez votre Sauveur, Jésus-Christ, qui lui est nos prémices. Agité devant le Seigneur, sur une croix bien sûr, mais agité de telle manière que tout chrétien peut crier avec joie, Christ est nos prémices, et la mort pour moi n'est qu'une récolte que j'attendais depuis longtemps. Paul continue en disant, la mort, hélas, est venue par un seul homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et là c'est triste. Oh Adam, je pense quelquefois, oh Adam, si tu n'avais pas écouté ta femme. Et je dis aussitôt, et Ève, si tu n'avais pas écouté le serpent. Et je dis aussitôt, et si le serpent n'était pas entré dans le jardin. Mais, et si je n'avais pas à mourir aussi, mais j'ai à mourir. Et le serpent est entré. Et Ève a pris, et elle a mangé, et elle a donné à son mari, et il en a mangé. Et le résultat, c'était la mort. Et je sais que nous sommes tentés toujours de voir Adam devant la porte du paradis terrestre, avec l'ange de l'Éternel, et avec l'épée devant, et Adam en train de regarder le jardin à travers les barreaux, le barreau céleste. C'est de travers ou à travers? De travers. Au travers des barreaux. Et nous le voyons en train de le regarder et dire, « Oh, si seulement je ne l'avais pas quitté, si seulement j'étais resté. » Mais Adam, tu es dehors, tu ne peux pas changer cela. Oh oui, mais si seulement je pouvais vivre toujours. Et pourtant, Adam n'a pas dû penser cela. Ne pensez pas que le Seigneur a dit uniquement et d'une manière froide et calculée, Adam, je t'écrase, Adam, je te punis, Adam, je te ferai souffrir. Il lui a dit, Adam, reste dans le jardin, tu seras heureux, tu vivras comme je voudrais, mais si tu le quittes, je ne peux plus faire ainsi, car je t'aime trop. Et Adam, je refuse de te laisser vivre 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Je refuse de te laisser souffrir. Et en même temps que la mort est ton châtiment, il est ton salut. Et il est ma grâce. Et il est ma bonté. Et c'est ainsi que si Adam à regarder d'un côté des barreaux en disant « Si je ne l'avais pas fait !» Christ a ouvert les barreaux en disant « Adam l'a fait, je ne peux pas le changer, mais j'ouvre la prison et la mort n'est qu'une porte. » Sur la tombe de ma belle-mère, très simplement, il est écrit « Je sais en qui j'ai cru. » Je voudrais que vous tourniez votre Bible avec moi au deuxième chapitre de 2 Timothée et je voudrais vous lire le verset précédent. 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 10. « Maintenant, Jésus-Christ a été manifesté comme notre Sauveur. Il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est par cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et lui, il est capable. » Si la mort est venue par Adam, la vie a été restaurée par Jésus-Christ. C'est la promesse. Et ne me dites pas que je dois craindre la mort. Dites-moi plutôt, remercie le Seigneur qu'il te donne la grâce de ne pas vivre toujours dans un monde de péché, dans un monde de tristesse, et dans un monde où finalement le péché finira par te vaincre. Le Seigneur t'en libère, mais la mort est nécessaire. Je continue en 1 Corinthiens 15, et il dit, il faut que chacun passe à son temps, en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et on dit, mais vous voyez bien, il aurait pu le faire. Le dernier ennemi existe toujours. Le dernier ennemi est toujours là. Heureusement. Heureusement, il est là. Comment voulez-vous que je quitte cette vie autrement? Mais vous n'avez pas lu assez loin. On n'est pas allé assez loin. En effet, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais Dieu, le verset suivant dit, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Frères, ici je fais un appel à votre foi et à votre sens de dévouement au Seigneur. Croyons-nous à ses promesses, croyons-nous à ses enseignements ou pas? Il est trop facile de regarder le monde et de voir la souffrance et de voir le péché et de voir la guerre et de voir les enfants souffrir et de voir les innocents qui n'ont rien fait pour mériter cela et de dire « Mais le diable règne !» Et ce n'est pas chrétien quand on le pense. Et de penser « Mais le diable, il est fort !» Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai si vous croyez vraiment à tout ce que la Bible dit. Elle nous dit « Dieu, par Jésus-Christ, a vaincu l'ennemi. » Il a vaincu, il est lié. Il n'a plus la puissance de la mort en ce qui vous concerne. Vous n'avez pas à craindre. Vous n'avez rien à craindre. En Hébreux 2, souvent quand je lis ce passage, je dis, qui sont les petits-enfants de Dieu? Je crois que je vous ai déjà quelques fois en prêchant. Est-ce que vous savez que Dieu a des petits-enfants? Vous savez tous qu'il a des enfants. C'est un grand-père qui vous parle, donc vous savez ce que c'est, comment un grand-père aime des petits-enfants. Qui sont les petits-enfants de Dieu? Eh bien, la seule et unique fois que l'idée est suggérée est en Hébreux 2. Et il dit à Christ, tu es mon fils. Dieu dit à Christ, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Oh non, je suis dans le mauvais passage, mais c'est exactement la même chose. C'est chapitre 2. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et je me confierai en toi. Et Christ dit à Dieu, et voici, c'est Christ qui s'adresse à Dieu, voici moi, Christ, et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous êtes des petits-enfants. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu, mais dans ce passage, il est dit, vous êtes des petits-enfants de Dieu l'Éternel. Regardez ce qui se passe maintenant. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je suis allé avec Daniel une fois pour le conduire jusqu'à Madrid à ses études. On a eu un problème de voiture, je vous épargne les détails. On était en plein, je dirais plein désert pour ainsi dire, et on a finalement trouvé un garage. On s'arrête, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de village, il y a un garage. C'est tout, mais le garage par miracle était là. On a été obligé de s'arrêter et de rester pendant au moins 4 heures. Ils n'ont pas réparé la voiture en fin de compte, mais... pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites autour d'un garage pendant 4 heures dans le désert espagnol? C'était vraiment... Et par-dessus, ils avaient brûlé le peu de verdure qui était autour. Eh bien, on était allé regarder des fourmis. Il nous restait quelques miettes de notre déjeuner et on avait donné à manger à des fourmis. C'est très amusant, je vous assure. Si jamais vous avez, en pleine Espagne, un problème, et vous avez une fourmilière, eh bien, mettez-vous-y, c'est bien. Or, il y avait une pauvre petite fourmi, la plus engourdie que j'ai jamais vue de ma vie. Tous les autres travaillaient à ramasser ses miettes, à aller. Lui, il n'en trouvait pas. Et finalement, exaspéré, Daniel l'a tout simplement pris, il a mis au-dessus de la plus grande et la plus belle miette de tout. Et moi, je me suis dit, Daniel, il va rentrer ce soir, il dit, Dieu exige, je l'ai vu. Eh ben, pas du tout. À toute vitesse et de toute jambe, cette pauvre bête s'est sauvée, il ne savait pas ce qui lui est arrivé. Et je ne sais pas ce qu'il a raconté à ses petits-enfants, mais surtout pas qu'il était croyant. Mais, si Daniel avait pu devenir une fourmi, avec la connaissance qu'il avait, et s'il avait pu aller lui dire, écoute mon vieux, c'est par là, je viens de le mettre, viens je vais te montrer, en tant que fourmi. Et poussons maintenant notre imagination assez loin pour dire que les autres fourmis jalouses avait tué mon fils devenu fourmi parce qu'il a voulu leur bien. Que penseraient toutes les générations futures dans la fourmilière? Vous voyez l'image? Or, la Bible me dit, il n'était pas possible que Dieu, par une grande main bénissante, prenne l'homme là où il était et dit, écoute mon vieux, je sais que ce n'est pas bien, je te prends, je te mets ici où tu es bien. L'homme n'aurait rien compris, il se serait sauvé à toutes jambes. Mais ainsi, puisque les enfants sont en chair et ne peuvent que raisonner pour l'instant, charnellement, et ne peuvent que rester devant la mort qui est une réalité que l'on ne peut nier, eh bien lui, il a participé à la chair, et il a participé au sang, et il a participé à la mort, afin que la mort et celui qui retient la puissance de la mort d'un seul coup et ensemble soient à tout jamais anéantis. Vous n'avez aucune raison, mes frères, d'avoir peur. Que votre cœur ne se trouble pas devant votre mort, je suis en train de dire. Remerciez le Seigneur de la bénédiction, du bien, de la grâce qu'il vous fait en disant, « C'en est assez, mon enfant. Tu as bien fait. Tu l'as fait autant que tu pouvais. Viens, je te sauve. » Et c'est ainsi que Paul continue, il dit, « Oh oui, mais quelqu'un va me dire, mais comment est-ce qu'il va revenir ?» Eh bien, il dit quelque chose. Il dit, « Il va revenir exactement de la même manière que vous plantez des grains. Et ces grains, Évidemment, vous l'avez dans la main, vous pensez en vous-même, mais c'est si peu de choses. Mais si je gardais le grain pendant qu'il est bien, pendant que je l'ai dans ma main, pendant que je l'ai dans le grenier, quand même je ne cours pas le risque d'un mauvais temps, de la sécheresse, de trop de pluie, d'un soleil trop tapant. Oui, mon frère, vous pouvez garder le grain, mais vous n'aurez pas de récolte. Vous pouvez soigneusement ramasser autour de vous tout le grain que vous voulez, mais vous n'aurez jamais du blé qui pousse. Et c'est ainsi qu'il dit, finalement, pour dire, avec quel corps est-ce qu'on va revenir? Eh bien, dit, écoutez, mes frères, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Oh, que j'aime bien cette phrase. Je ne sais pas si je suis digne d'être un grain de blé dans le grenier de Dieu. Je le dis franchement. Je ne sais pas si Dieu me considère assez bien pour être un grain de blé, mais peu importe, la phrase suivante, c'est un simple grain de blé ou quelque autre semence. Mes frères, je ne demande pas d'être le meilleur blé. Je ne demande pas d'être la gerbe agitée devant le Seigneur. Tout ce que je demande, c'est que le Seigneur m'accorde la grâce d'être quelque autre semence dans son grenier, mais qu'il le plante, et qu'il le fasse arroser, et qu'il fasse son soleil dessus, et que finalement, un jour, par sa divine puissance, il fasse récolter. Il y a un seul et unique mot que j'ajoute. Quand Jésus était devant la tombe de la petite fille de Jaïrus, on lui dit, ne trouble pas le maître. Comment vous dira un jour, quand vous êtes prêt à mourir, ou quand vous êtes devant la mort, ou quand quelqu'un que vous aimez est mourant, on dirait peut-être, ne troublez pas le maître, il est mort, elle est morte. Et le Seigneur a dit, ne crains pas, crois seulement. Et s'avançant, il voit toute la foule bruyante des gens payés pour cela à l'époque, à pleurer, Jésus les chasse. Et il dit, mais elle n'est pas morte, elle dort. Et on a ri. Et j'aurais ri aussi, si ce n'était pas Jésus le Sauveur. Jésus peut dire ce que les hommes ne peuvent pas dire. Vous êtes obligés de me dire, devant la mort de quelqu'un que vous aimez, il est mort, elle est morte. Mais Jésus peut dire, ce n'est pas vrai. Il n'est pas mort, il dort. Et la différence, c'est que quand vous êtes devant votre enfant qui dort, et vous dites, il dort, vous pouvez le réveiller. Et avec cette confiance, vous dites, il dort. Et moi, je vous dis que Jésus le Seigneur est capable de dire de vous et de moi et de toute autre personne, il n'est pas mort, il dort. Et lui seul, est capable de le réveiller. Donc il dort. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand moi, je meurs, je ne demande qu'une chose à ma famille. Dites, chut, il dort.
À toi la gloire. L'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire.
Veuillez trouver dans votre livre de chants le numéro 119.